Bonsoir à tous et bienvenue dans ces chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors pour ces deux mois d'été, nous allons quitter un peu la vieille Europe pour avoir peut-être une antenne un peu plus libre et parler de d'autres sujets, mais toujours aussi sérieux et passionnant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'équipe rédactionnelle d'Éléments à propos de leur dernier numéro avec un dossier sur la diabolisation et avec comme thème pour cette émission le mythe de la gauche populaire. La gauche est au pouvoir depuis maintenant deux ou trois mois. Pour certains, elle a perdu définitivement son lien avec le peuple, avec la classe populaire, les ouvriers, les classes moyennes, en gros avec la France. Pour certains, cette réalité est un fait et la gauche doit se rapprocher de son électorat naturel, les minorités sexuelles, les jeunes, les immigrés, les femmes. En gros, la position que prône la fameuse association Terra Nova du regretté Olivier Ferrand. Pour d'autres, il y a un véritable danger, c'est de laisser la France au Front National, le Front de Gauche ne jouant plus la continuité de ce qu'avait été le Parti communiste français dans les années 60-70. Le peuple n'aurait plus d'alternative à gauche. Donc, autour de certains chercheurs et journalistes, un collectif informel appelé Gauche Populaire veut rapprocher la gauche du peuple, mais n'est-on pas dans le mythe et peut-on le décréter? Pour en parler ce soir autour de moi, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Essérick, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Pierre Le Vigan. Bonsoir Pierre Le Vigan.
Bonsoir.
Et Olivier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Collaborateur de la dite revue. Alors, commençons peut-être par le début. Mon cher Pascal Essérick, le thème de la diabolisation. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous abordez ce dossier. Est-ce que le thème ne fait-il pas partie de ces marronniers de l'été de la revue Éléments, Pascal Essérick?
Mon cher Patrick Péel, vous êtes trop fin pour n'avoir pas remarqué que ce dossier sur la diabolisation ne concernait ni la revue Éléments, ni la Nouvelle Droite, ni la droite en général. Elle concerne finalement une méthode de gestion du paysage intellectuel français. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans ce dossier, comment la réductio ad Hitlerum fait fonction de méthode de gestion pour mettre hors la loi des idées, des mouvements de pensée, des auteurs, des écrivains. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est que ça concerne des gens qui sont classés à gauche. Hier, c'était une méthode pour disons éliminer du débat intellectuel des penseurs de droite. Aujourd'hui, c'est pour éliminer des penseurs de gauche.
Et tout
le dossier porte là-dessus.
Les nouveaux réacs, la gauche populaire, sur le plan de la littérature aussi. Alors la gauche populaire, c'est un peu on les appelait aussi les réacs de gauche. Tout ça, vous avez mis ça un peu dans le même bain, quoi.
Oui. Pourquoi? Parce que il nous a semblé intéressant de montrer que cette méthode de gestion, donc du paysage intellectuel français, ne concernait plus la frange dite de droite. Elle concernait tous les autres. Et donc, effectivement, ce qu'on a appelé les nouveaux réacs, ce qu'on appelle donc la gauche populaire, je crois que Pierre pourra plus en parler en profondeur. Et dans la littérature, eh bien, ça a été le cas de Renaud Camus, que nous interrogeons longuement. Ça a été le cas de Richard Millet, etc. Au départ, Renaud Camus n'est pas un auteur classé à droite. Au départ, disons qu'il est porté par des journaux comme Libération, comme...
Des pieds aussi, il faut dire.
Exactement. Et petit à petit, il va subir ce déclassement. Voilà.
Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose à ce que dit Pascal Essérick, car vous dites que la diabolisation aujourd'hui touche les gens de gauche, mais à l'origine même, je fais référence
alors là, je pense notamment à un texte de George Orwell sur la guerre d'Espagne, hommage à la Catalogne. Les premiers à avoir été touchés, parce qu'il faut remonter à l'origine stalinienne de cet antifascisme officiel, et à cette manière, à cette technique qu'avaient les staliniens au moment de la guerre d'Espagne, c'est pour ça que je fais référence à Orwell, de disqualifier l'adversaire en le traitant de fasciste. Et c'est arrivé, évidemment, et Orwell le note très bien, aux trotskistes et aux anarchistes qui étaient traités de trotsko-nazis, anarchistes, anarcho-fascistes ou anarcho-franquistes, etc., pendant la guerre d'Espagne. Et donc, je pense, après 45, évidemment, ce sont des gens, on va dire, de droite, qui ont été touchés par cette diabolisation. Mais je voulais préciser simplement diabolisation, l'origine stalinienne de la diabolisation.
Vous avez raison, parce qu'il y a un moment, on parlait de socialo-fascistes, quand les communistes combattaient les socialistes, ou quand Staline leur disait, ben non, pas d'alliance cette fois-ci, ils les traitaient de socialo-fascistes.
C'était une hitlero-trotskistes, ou hitlero-titistes aussi, c'était des expressions utilisées par les staliniens dans les années 45-50. Ce que disait Olivier François est très juste. Je relisais récemment l'hommage à la Catalogne, et effectivement, Orwell explique ces complots des staliniens, des communistes staliniens, visant à présenter le POUM, qui était à certains égards trotskiste, mais au fond pas si trotskiste que ça, comme payé et manipulé par les franquistes. Et c'est assez passionnant dans le livre d'Orwell, parce que il ne répond même pas sur le fond, tellement c'est totalement extravagant, mais il dit un peu sa sidération que des pseudo-camarades de combat du même camp osent proférer des accusations pareilles, sans bien entendu l'ombre d'un fondement sérieux, bien entendu.
Pascal Essérec.
Oui, et aujourd'hui on arrive à cette situation absolument, j'allais dire ubuesque, de voir Laura Adler traiter l'écrivain Renaud Camus d'être, je cite, pire que Hitler.
Il faut arriver à le faire.
C'est très dur. Pire que Hitler, ouais. Faut le faire.
Ça
mérite une médaille.
Alors, Pierre Le Vigan, vous avez étudié pour la revue Éléments de très près cette gauche populaire qui est un peu malmenée en ce moment. Enfin, pas trop, pas tant que ça. Même s'ils n'ont pas beaucoup, mais alors c'est entre parenthèses, ils n'ont pas beaucoup apprécié la couverture d'Éléments mettant leur nom.
Pas tout le monde.
Mais enfin, il y en a qui n'ont pas apprécié.
On a reçu des messages d'encouragement.
Bon. Oui. Alors, plus précisément, vous avez étudié le livre de Laurent Bouvet, Le sens du peuple, aux éditions Gallimard. Comment est née cette gauche populaire et quelle est son originalité?
Oui, alors, la gauche populaire est un courant récent, hein, mais qui s'appuie effectivement sur des réflexions qui date de quelques années, hein, avant la victoire de François Hollande, d'un certain nombre d'hommes de gauche, un peu marginalisés, hein, il faut bien le dire, enfin, qui sont avant tout des esprits indépendants, des esprits libres, et qui ont voulu très clairement se distinguer de la vulgate dominante pour expliquer que le sentiment d'insécurité n'était pas en soi de droite, a fortiori quand ce sentiment n'est pas un fantasme, mais s'appuie sur des éléments factuels d'une insécurité subie, et subie d'abord par les couches populaires qui ont moins les moyens de se protéger et qui, par définition même, si je puis dire, n'habitent pas, c'est un peu tautologique, mais enfin, dans des quartiers bourgeois où il y a X flics au mètre carré. Donc voilà. Donc, les gens de la gauche populaire, sur notamment cet aspect de la sécurité, mais aussi sur les traumatismes sociaux liés à l'immigration, le délitement du lien social, dont l'immigration est à la fois un témoignage, une conséquence, mais aussi, il faut bien le dire, une cause, hein, une cause aggravante en quelque sorte, c'est l'œuf et la poule, hein, mais il est évident qu'on ne répond pas au délitement du lien social par plus d'immigration, c'est-à-dire plus de populations désidentifiées et déracinées. Bien au contraire, on aggrave cette crise du lien social. Et bien, cette gauche populaire, donc, a essayé de dire, abstenons-nous de porter des jugements de valeur. Il parle des problèmes de l'immigration, donc ce sont des fachos, pour faire court, ou des salauds, comme disait Bernard Tapie, il y a pratiquement maintenant 20 ans. Hein. Ouais. Essayons de voir là, peut-être, la réalité, à savoir une vraie souffrance du peuple, dont le vote populiste de droite n'est pas la bonne réponse du point de vue des gens de la gauche populaire, mais n'est pas une réponse infâme en soi, pour la bonne et simple raison que derrière ce vote, il y a un réel problème, une réelle souffrance qu'il faut prendre en compte si la gauche veut assumer une préoccupation pour le peuple, ce qui serait a priori logique. Donc la gauche populaire, mais en quelque sorte la gauche tout court, si je puis dire, devant ses responsabilités et devant ses contradictions. Et bien entendu, les contradictions éclatent, puisque l'on voit que la gauche populaire est marginalisée et refoulée en quelque sorte à droite par un phénomène de dextrisme. Alors vous parlez des problèmes de l'immigration, donc vous parlez comme le Front National ou comme l'aile droite de l'UMP. On parle d'un problème, ça ne veut pas dire qu'on donne les mêmes réponses que le Front National.
Sylvain Bourmont, le directeur adjoint de Libération, a dit que ils étaient. Je reprends, a dit qu'ils étaient pires que Le Pen.
Voilà. Alors,
la gauche populaire, et c'est pire que Le Pen.
Au départ, on a affaire quand même à une. C'est la réaction. Enfin, c'est un groupe un peu informel, hein, d'universitaires, d'intellectuels, voilà. De politiques. C'est un peu une réponse au fameux rapport de Terra Nova qui eux constatent clairement la gauche, son électorat n'est plus la gauche populaire.
Alors effectivement,
enfin, la classe populaire.
Dans le fameux rapport du think tank Terra Nova, qui était dirigé effectivement par Olivier Ferrand, qui est décédé. Enfin, qui subsiste, hein. Et bien, il y avait deux choses. Il y avait un constat assez juste et une conclusion qui visait, si je puis dire, à aggraver le constat. Il pleut, faisons en sorte qu'il pleuve encore plus, puisque c'est ouais. Bon pour la terre. Bon, voilà. Alors, le constat, c'était que effectivement, le Parti socialiste, depuis un certain nombre d'années, a été abandonné par les couches ouvrières et populaires assez largement. Et par ailleurs, au cours des 2007, c'était très flagrant, en 2012, ça s'est confirmé, les populations d'origine immigrée votent très largement, à plus de 80% incontestablement, pour le candidat de gauche. C'était Ségolène Royal en 2007, c'était bien entendu François Hollande en 2012. Voilà. Alors, ensuite, aux États-Unis aussi, on constate que l'immense majorité des Noirs, pas la totalité quand même, ont voté Obama, et que 48% à peu près des Blancs ont voté Obama, ce qui évidemment lui a permis de dépasser les 50%. Bon. Ceci étant, bien entendu, la bêtise, c'est d'en conclure à un automatisme, à un systématisme. Alors, en l'occurrence, Terra Nova disait, donc il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que de toute façon, il faut faire l'impasse sur les ouvriers qui votent, soit encore UMP d'ailleurs, il y en a, bien entendu, en grande majorité, en 2002 et en 2012, enfin, pas en majorité, mais disons la plus forte des minorités des ouvriers, c'est pas la même chose, la plus forte minorité des ouvriers vote Front National, c'était le cas en 2002 et en 2012, parenthèse pour 2007 avec le relatif effondrement du Front National, puisque Le Pen n'avait fait 10,5% des voix au présidentiel, enfin Le Pen perd en l'occurrence, et donc faisons l'impasse dit Terra Nova du point de vue de la gauche sur cet électorat ouvrier. Gardons les classes moyennes supérieures qui votent déjà pour nous, les cadres sup, les bobos sup. Le concept de bobo est un peu ambivalent. Ouais. Il y a dans les bobos, il y a les bobos un peu bas de gamme, si j'ose dire. Enfin, les bobos semi-prolo, hein, si vous voulez, qui utilisent un peu ce qui reste du système social français, plus des CDD qui, de toute façon, sont la principale offre qui leur est offerte sur le marché du travail pour desserrer un peu la contrainte de l'esclavage salarié. On a envie de dire, tant mieux pour eux d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a les bobos sup. Hein,
ceux qui sont dans les centres-villes.
Qui font des boîtes de com, etc.
Les abonnés aux incuptibles.
Qui font des plans com, etc. Voilà. Alors, les bobos bas de gamme, c'est les abonnés aux incuptibles. Ceux qui reçoivent les inrocs gratuitement, c'est les bobos sup. Voilà. Donc, Terra Nova disait, continuons dans ce sens-là. On garde les bobos sup. En plus, c'est les décideurs. Donc, c'est les éléments stratégiques de la société. Hein. On fait l'impasse sur les prolos, de toute façon, sont des abrutis qui votent pour le Front. Ils sont pas récupérables, hein, sous prétexte qu'ils sont piqués régulièrement leur autoradio, ils ont un sentiment d'insécurité, enfin bon, n'importe quoi. Ils ont qu'à habiter comme tout le monde dans des résidences sécurisées, comme tous les gens sérieux qui gagnent plus de 6000 euros par mois. Ah, voilà. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça. Et puis, on garde les immigrés. De toute façon, ils comprennent rien à rien. Donc, ils ont qu'à voter PS. Ils en ont pris l'habitude. Ils ont qu'à continuer cette habitude. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà, en gros, la thèse de Terra Nova. Et les gens de la gauche pop, terme qui, bien entendu, évoque la droite, populaire,
enfin, mais qui a vraiment rien à voir, hein, sur le. On peut pas les mettre.
Non, c'est très différent. C'est très différent. Bien que, il faut pas oublier que la droite populaire a fait aussi quelques propositions sociales, économiques. N'oublions pas qu'ils avaient fait quelques propositions qui allaient quand même dans le sens d'un certain populisme, mais au sens cette fois social du terme. Nous, en matière de fiscalité, par exemple, tout ce qu'on dit les députés de la droite populaire n'était pas, comme on pourrait le croire, libéral. Donc il y avait aussi une tentative de copier, si je puis dire, ce qu'il y a de meilleur dans le Front National. Hein, c'est-à-dire aussi le tournant, depuis Marine Le Pen, le tournant antilibéral. Il y avait aussi ça dans la droite populaire. Sincère ou pas sincère, je n'en sais rien, je ne suis pas là pour sonder les cœurs et les esprits, mais il y avait aussi de ça. Bon, ceci étant, c'est très différent. Oui. Alors, la gauche populaire a quand même un point d'ancrage à gauche extrêmement clair, et au demeurant contestable, hein, il faut bien dire, c'est quand même toujours la référence à l'idéologie des Lumières, que les sociologues de la gauche populaire ne connaissent pas particulièrement, mais qui est en fait une référence pratiquement imposée. C'est pareil.
C'est un totem, Jean-Luc
Mélenchon n'a pas cessé de se référer aux Lumières. Et ça veut dire quoi, quand même, comme soubassement implicite, hein. Encore une fois, la vraie question n'est pas de savoir si c'est ça, l'idéologie des Lumières, mais c'est ce que les intellectuels français en ont gardé, hein, qui n'a peut-être pas un grand rapport avec ce que pensait réellement Diderot. À savoir quand même la religion du progrès. Et c'est vrai que les gens de la gauche pop, c'est l'aspect, de mon point de vue, décevant, ils sont toujours dans la religion du progrès. Ce qui ne les amène pas à être des objecteurs de croissance, ce qui me paraîtrait nécessaire, pas seulement à moi, mais à un nombre de nos amis, et peut-être Pascal Essérie que verra un petit peu la mouvance un peu à laquelle je pense, hein, y compris une certaine droite, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, pour ce qui est de la droite d'éléments, entre quelque sorte, qui est une droite fondamentalement anti-productiviste, et décroissante, ou en tout cas qui objecte à la croissance que tout plus n'est pas un mieux. Hein. Et là, c'est vrai que la gauche populaire, malheureusement, est en position philosophique faible. Hein, si vous voulez, il ne suffit pas de se référer aux bons aspects de Jacques Sapir, aux bons aspects d'Emmanuel Toth et au protectionnisme. Et encore, la gauche populaire ne va pas vraiment, franchement, jusque-là. Malheureusement, elle va moins loin à certains égards que le MPEP, le Mouvement pour l'éducation populaire de Jacques Nikonoff, le dissident d'Attaque, qui est quand même beaucoup plus clairement et beaucoup plus franchement protectionniste, ce qui n'empêche pas d'être très hostile, par exemple, au Front National, et c'est son choix et c'est son droit.
Ouais.
Hein, mais la gauche populaire reste quand même assez timide. Alors, ceci étant, en posant le problème d'une nouvelle alliance entre la gauche et le peuple, eh bien, elle pose une vraie question qui montre que la gauche a failli, ce qui ne veut pas dire que la droite parlementaire, en quelque sorte, offre en aucune façon une réponse qui serait meilleure que celle de François Hollande, bien entendu, pas non plus.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, on est en train de parler de la gauche populaire. Olivier François, vous vouliez intervenir.
Vous faites bien, Pierre Le Vigan, de signaler le progressisme de la gauche populaire. Moi, j'ai l'impression que c'est paradoxalement un progressisme nostalgique. Au fond, ce ne sont pas des progressistes comme Terra Nova, qui vont faire l'éloge du roller skate, etc. Même on peut imaginer que les gens de la gauche populaire, parce que c'est à la mode maintenant, vont Flip Muret. Mais au fond, c'est des gens qui sont nostalgiques le progrès, c'était mieux avant. Au fond, c'est toujours des gens qui, face à l'état présent du monde, en réclament avec la vieille nostalgie. Moi, ça me fait penser beaucoup, quand vous la décriviez, cette gauche populaire, à ce qu'ont pu être des gens comme qui tournaient autour de la fondation du 2 mars ou de la fondation Marc Bloch dans les années fin des des années 90, qui au fond étaient des gaullistes, des républicains, et dire ah, si De Gaulle, ah, autant de Gaulle, qu'est-ce que c'était mieux avant, sauf que, bon, De Gaulle est bien sympathique, on peut en effet, en tout cas en géopolitique, s'en réclamer, mais est-ce qu'il répond, moi non plus, j'ai pas du tout beaucoup de tendresse pour De Gaulle, mais est-ce qu'il répond aujourd'hui, est-ce que l'appel nostalgique, lyrique et incantatoire au progrès des Trente Glorieuses, au fond, permet de répondre aux questions, notamment, vous avez bien fait de le signaler, à la question écologique, à la question du délitement de la société, même de l'apparition d'un certain nombre de mutations anthropologiques, moi qui me semble absolument effrayante. Il suffit de se promener dans le métro, d'ailleurs, ou dans la rue pour s'en apercevoir. Et j'ai l'impression que ces gens-là, au fond, sont dans... Oui, le progrès, c'était mieux avant,
en quelque sorte. Alors, plusieurs choses. Bon, il faut lire, déjà, vraiment, les gens de la gauche populaire. Je pense à Laurent Bouvet et Jean-Pierre Le Goff, qui d'ailleurs sont plus à la périphérie de la gauche populaire.
Ouais, alors Jean-Pierre Le Goff est un peu à part.
Qui sont des gens à part, mais qui ont...
Je vais juste préciser pour les auditeurs que dans ce collectif de jeunes chercheurs qui sont sociologues, figure Gaël Brustier, qui a écrit dernièrement le Recherche Peuple désespérément, Philippe Guibert, Alain Mergier, qui est un auteur vraiment d'une étude qui moi m'a absolument passionné, qui s'appelle Le Descenseur Social, enquête sur les milieux populaires. Figure aussi, quoi qu'à la marge, Christophe Guy, l'auteur de Le Géographe, auteur de Fracture française. Vous voyez que, d'ailleurs, à l'énumération des titres, il y a quelque chose. Voilà, ils recherchent peuple désespérément.
Oui, je trouve que
formidable.
Voilà. Alors, Pascal Essérick a bien raison de le dire. Encore une fois, quand j'ai cité Laurent Bouvet et Jean-Pierre Le Goff, je ne veux pas les enrôler à l'insu de leur plein gré, comme disent les footballeurs, dans la gauche populaire, mais il est certain, ainsi que Christophe Guy, lui, qu'ils ont inspiré la gauche populaire, de même d'ailleurs que Sarkozy, en homme qui a du nez avec son conseiller Patrick Buisson, qui ne manquait pas de nez lui non plus, avait essayé de faire venir Christophe Guy, lui, pour trouver très clairement une stratégie de contournement de la gauche par la gauche. C'est d'ailleurs assez facile de contourner la gauche actuelle est tellement à droite que il y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour la contourner par la gauche. Hein. C'est sûr qu'elle est plus à droite que Tixier-Vignancourt en 65. Alors, on n'a pas à se forcer beaucoup pour la déborder sur la gauche. Hein. Et donc il se trouve que effectivement il faut lire ces analyses qui sont passionnantes. Alors une chose qui interpelle malgré tout et que l'on voit par exemple en regardant les résultats de la circonscription d'Hénin Beaumont, hein, c'est que dans les secteurs populaires il y a un fort vote effectivement Front National, mais au second tour, quand le Front National n'est pas au second tour, il y a quand même, fondamentalement, ça revient à gauche. Hein. Et ça, c'est très caractéristique dans le Nord-Pas-de-Calais et même en Picardie. C'est beaucoup moins net dans la région PACA, où, en l'occurrence, l'électorat du Front National n'est pas un électorat aussi populaire. C'est un électorat plus petit bourgeois. Donc là, on sort de notre problématique, puisque notre problématique, c'est la gauche et le peuple. Hein. Mais il y a quand même cette idée, au deuxième tour, que le peuple, finalement, n'attend rien réellement de la droite au sens classique du terme, l'UMP, quoi. C'est assez clair. Même si le peuple, c'est assez clair aussi, ne se fait vraiment pas d'illusions sur le PS. Mais enfin, il y a une idée de « à tout prendre ». Le PS, c'est un petit peu moins catastrophique, peut-être. Et c'est vrai que c'est pas non plus par hasard si cette gauche populaire apparaît précisément à gauche. C'est qu'il y a quand même à gauche un intérêt pour les débats d'idées qu'il n'y a pas vraiment à droite. C'est-à-dire que la gauche populaire interpelle plus la gauche, malgré tout, que la droite populaire n'a interpellé la droite. Hein. Tout simplement parce que la droite n'aime pas la pensée, n'aime pas les idées. Donc c'est la définition structurelle de la droite, c'est que considère que l'argent est toujours plus noble que les idées. Hein, donc, alors que la gauche, même quand elle adore l'argent, n'arrive pas à complètement dévaloriser les idées. Hein, c'est dans ses gènes.
Alors il y a une autre, pour certains, il y a une origine de ce tournant. Laurent Bouvet lui parle du tournant libéral de 82-83. C'est souvent une date qu'on donne, mais il parle déjà en fait de ces deux gauches qui s'étaient séparées avant. Il y avait un peu la gauche du programme commun, puis il y avait un peu la gauche à la Jack Lang qui se faisait pas beaucoup d'illusions sur le programme de François Mitterrand. Le Goff, lui, il va plus loin. Il considère qu'il faut en finir avec 68 à ce moment-là. Lui, il va radicalement beaucoup plus loin. D'après ce que j'ai compris, il considère qu'il faut revenir là-dessus. Alors, il n'est pas vraiment d'accord avec la gauche populaire là-dessus, qui, eux, pensent qu'il suffit de revenir dans un cadre républicain et puis tout ira bien.
Alors, c'est sans doute exact ce que vous dites, Patrick PL. Il me semble que Jean-Pierre Le Goff est quasiment à mi-chemin entre la gauche pop et Michéa. C'est-à-dire que non seulement il critique la gauche libérale libertaire, mais il explique qu'il y a un tropisme qui pousse structurellement la gauche à devenir libérale libertaire, et ce depuis très longtemps, tant qu'elle n'accepte pas de remettre en cause le mythe de mai 68, enfin, c'est d'ailleurs le mythe de mai 68, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se libérer des contraintes, etc. Et en fait, pour Jean-Pierre Le Goff, ne garderait certainement de mai 68 que les luttes sociales et les vraies émancipations qui n'étaient pas de faire l'amour librement, ce qui peut se faire depuis des millénaires, mais qui étaient pour des femmes d'une usine, d'un petit atelier du fin fond de la Bretagne, d'oser relever la tête et d'oser refuser le droit de cuissage du contremaître. Et c'était ça la vraie libération. C'était pas des frissons de bourgeois qui s'imaginent avoir découvert la révolution sexuelle parce que ils ont réalisé leur fantasme inavoué ou inavouable.
Alors, on va juste faire une petite pause et on va se retrouver, comme on a une heure et demie pour parler de tout ça, parce qu'il fait quand même très chaud dans le studio, ça va nous permettre de se reposer quelques secondes. On va écouter, alors, comme on est en vacances, j'ai pris un petit air de Corse.
Yeah.
les studios de Radio Courtoisie pour ces chroniques de la vieille Europe où nous avons décidé en ce mois de juillet chaud de parler d'une partie du dossier du dernier numéro d'Éléments avec sa rédaction sur la gauche populaire. Alors on va revenir sur cette fameuse gauche populaire. Est-ce que vous avez l'impression que le mot de gauche dans son histoire n'a pas été une sorte de malentendu volontaire avec le peuple, une tromperie, car en fait la gauche n'a jamais remis en cause l'idéologie du développement?
Alors oui, ça c'est certain que la gauche n'a pas remis en cause l'idéologie du développement. Alors c'est vrai que les choses ne se présentent pas de la même façon depuis en gros une vingtaine d'années, où on se pose depuis notamment René Dumont et quelques autres, où on se pose réellement la question de savoir si la croissance c'est le développement, et même si ce qu'on appelle le développement n'est pas une sorte de déviation occidentaliste, où au fond on confond notre vision de l'homme avec une vision qui devrait être universalisée et imposée à des hommes de tout coin de la terre, y compris de civilisations qui ne sont pas celles de l'Occident européen, et pour lesquelles au fond notre idéologie du développement et a fortiori de la croissance et a fortiori du productivisme risque d'être totalement catastrophique. On se rend compte au demeurant que l'idéologie productiviste non seulement a fait des dégâts épouvantables dans le tiers monde, mais en fait aussi chez nous. Alors on s'en rend moins compte parce qu'on a tellement le nez dessus, on est tellement, c'est tellement notre identité, la croyance au développement, qu'on a quand même du mal à se rendre compte de l'aliénation qui est la nôtre, parce qu'elle est tellement proche de nous que c'est un peu comme notre propre peau. On n'a pas le sentiment de notre propre peau quand on caresse quelqu'un, et non, on a le sentiment de la peau de l'autre, mais le sentiment de notre propre peau, par définition, comme dirait Merleau-Ponty, c'est tellement intime à nous qu'on le sent beaucoup moins. Donc évidemment, l'idéologie du développement, on commence malgré tout, avec toute une série de courants de pensée décroissants, etc., à se rendre compte que c'est notre propre aliénation qui se joue, hein, et que dans ce face-à-face avec nous-mêmes, nous commençons à nous rendre compte que nous sommes en train de nous défigurer en tant qu'humains et en tant qu'Européens, que nous sommes en train de descendre en dessous de nous-mêmes, tel que nous ne l'avons jamais fait pendant plusieurs centaines d'années. C'est quand même, nous sommes en période, comme disait Pier Paolo Pasolini, de véritable régression anthropologique.
Surtout que cette idéologie du développement, on ne la maîtrise plus. On en a été les maîtres, et aujourd'hui, on commence à se faire dépasser un peu à droite et à gauche par les BRICS ou les pays du tiers-monde eux-mêmes.
Absolument. Et donc, en fait, la véritable alternative qui se pose à nous actuellement, c'est décroissance subie, parce que de toute façon, elle est déjà là, ou décroissance maîtrisée. Alors, maîtrisée, on dira, on retrouve encore le fantasme de l'Occident, mais enfin, on ne peut pas non plus ne pas assumer en quelque sorte un petit peu cet aspect, mais décroissance maîtrisée, c'est tout de même ça serait déjà un net progrès, pour une fois, j'utilise le terme de progrès, par rapport au mythe, justement, au mythe du progrès, à la religion du progrès. C'est-à-dire, essayons au moins quitte à ne plus pouvoir être les premiers dans le monde, et à quoi bon être les premiers, et les premiers dans quoi, essayons au moins de savoir ce que nous acceptons de voir décroître dans un monde de toute façon fini, et ce que nous souhaitons éventuellement voir croître, par exemple les liens sociaux. Par exemple, en termes de croissance, quand on diffuse une information, on n'est pas moins riche de la diffusion de cette information. Là, on est dans le gagnant-gagnant. Hein. Ce que l'on a donné en diffusant une information, on ne se l'est pas enlevé. On est dans le plus-plus. Eh bien, c'est un petit peu cette nouvelle voie d'être au monde, hein, consistant à développer ce qui ne nuit pas, ce qui n'est pas pris sur le monde, hein, notamment les liens sociaux, la communication, la convivialité, comme dit Alain Caillé, et de faire décroître notre empreinte, notre prédation sur le monde. Hein. Ça, c'est la grande question qui se pose transversalement aux droites intelligentes et aux gauches intelligentes, mais qui, on le voit bien, n'ont aucune résonance dans les droites qui ont le pouvoir et l'argent, celle de Jean-François Copé, et qui n'en ont guère non plus dans la gauche au pouvoir. Et on verra très vite, d'ailleurs, que la démondialisation d'Arnaud Montebourg, comment elle se terminera. Ça sera se soumettre ou se démettre, bien entendu. Parce que tout simplement, il n'y a pas de compromis possible avec une tendance qui va dans le sens inverse. Si vous voulez, si vous voulez à Brest, il ne faut pas prendre le train qui Paris-Strasbourg. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas le bon choix. Il vaut mieux rester à quai.
Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression, je lisais un entretien de Laurent Bouvet qu'il avait fait dans Marianne, qui expliquait face à Éric Fassin, en expliquant qu'on ne peut pas cependant nier le fait que l'immigration pèse sur l'emploi non qualifié et que cela induit certains comportements. Alors Éric Fassin lui explique que c'était complètement faux. Ces discours-là sur l'immigration, sur le protectionnisme qu'on revoit arriver avec Emmanuel Todd, sur Maurice Allais, etc., j'ai l'impression que ça fait 20 ou 30 ans qu'on en parle. Ça arrive à gauche et on a l'impression que c'est nouveau et qu'ils viennent de découvrir en fait la Lune quelque part.
Alors le gros tabou de la gauche, hein, ça reste essentiellement effectivement l'immigration. C'est-à-dire que la gauche qui critique la libre circulation des capitaux n'arrive pas, enfin même dans ses fractions les plus périphériques, n'arrive pas à critiquer la libre circulation.
C'est un peu l'échec de Jean-Luc Mélenchon sur là-dessus au moins.
Oui, enfin, comment dire, je ne sais même pas si on peut parler d'échec, parce qu'il n'a jamais...
Il n'a jamais pris en compte.
Il n'a jamais voulu critiquer la libre circulation des hommes. Mmh. Donc, il y a une croyance quasiment religieuse, qui relève de la sorcellerie, hein, beaucoup plus que de la rationalité. On serait presque tenté de dire là-dessus, faisons appel au meilleur de l'esprit des Lumières. Osons savoir quelle est la réalité de l'immigration et à quoi sert l'immigration. Elle sert, bien entendu, à la logique du capital, bien entendu. Alors, mais la gauche, là-dessus, ne veut pas savoir. Alors, la gauche est dans l'aveuglement volontaire.
Ouais, je vais revenir à Olivier François. Ils vont quand même assez loin, parce qu'ils disent que ça pose un problème, mais ils ne veulent pas poser la question de savoir si c'est un avantage ou un désavantage, l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à là.
Le postulat, c'est que c'est un avantage pour la France et pour les immigrés. Et ils insistent surtout pour la France, parce que il s'agit de convaincre le peuple français. Voilà. D'ailleurs, de quelque chose dont toute la réalité quotidienne tend à... plutôt à le convaincre du contraire, hein. Il s'agit de marteler que c'est bon à la fois comptablement et pour l'économie, etc. Alors c'est vrai que il y a aussi des points volontairement aveugles, hein. C'est-à-dire que la gauche ne dit jamais est-ce que l'immigration est bien pour le lien social. C'est quand même tellement évident que les frictions entre Français et immigrés, mais même, et peut-être surtout, les frictions entre communautés immigrées, sont tellement évidentes que là-dessus, il est quand même difficile de dire quelque chose. Donc ils ne disent rien. Ils se contentent de tenir la gauche, comme la droite, mais la droite, c'est logique, hein, la droite est structurellement économiciste, mais même la gauche, sur l'immigration, ne tient qu'un discours économiciste, alors qu'on pourrait attendre d'elle un autre discours.
Olivier François.
À ce propos, d'ailleurs, à propos de l'immigration, Jean-Luc Mélenchon, pour se voulait l'éducateur du peuple. Quel orgueil, d'ailleurs, de vouloir éduquer le peuple français pour qu'il comprenne à quel point c'était bien de se laisser envahir, si je puis dire, par des vagues migratoires parfois incontrôlées. Vous disiez tout à l'heure aussi que la gauche avait peur de l'immigration, peur d'en parler. Moi, je pense qu'elle a peur aussi de son passé, car alors on pourrait revenir même sur la notion de gauche qui est très récente et la différencier de la notion de socialisme, parce qu'aujourd'hui, peut-être pour certains de nos auditeurs, la gauche et le socialisme. Moi, je pense que le socialisme, dans son histoire, a été autre chose que la gauche. Et on pourrait rappeler tout simplement même Engels, qui dans certains de ses textes, ou Marx, n'avait que mépris pour des figures qui aujourd'hui sont montées au pinacle par la gauche, notamment par Terra Nova, ou par la gauche culturelle. culturel, fasciné par la Kaira, par Joe Star, par la figure du voyou américain, Asphalt Jungle, hein, comme disait Cohn Bendit pour défendre un peu cette jungle urbaine. Et ces gens-là, Engels ou n'importe quel militant ouvrier à la fin du 19e siècle, quand il voyait un voyou qui volait, n'avait simplement, pour lui, l'évidence même, c'était de réagir contre ce qu'on appelle aujourd'hui les incivilités, mais qui sont souvent des actes de barbarie.
Alors, il y a quelque chose d'assez frappant, effectivement, chez une certaine gauche. Alors là, je ne parle pas des gens dans l'ensemble plutôt sympathiques et avisés de la gauche populaire, même si sur la question des Lumières, on aimerait bien discuter au fond avec eux pour les pousser vers, me semble-t-il, plus de cohérence nécessaire à ce que leur projet soit réellement efficace et rejoigne, pourquoi pas, celui des lecteurs d'éléments, pourquoi pas, voire d'une masse d'auditeurs de radio courtoisie qui sont certainement...
Vous allez leur faire peur, là, à la gauche populaire.
Qui sont certainement aussi...
Pierre, ne commencez pas à tout mélanger,
très intéressés par la revendication populiste,
sont tous aussi tremblés en
revendication populiste qui est par définition transversale droite-gauche, hein, il faut bien le dire. Bon, mais j'ai perdu un petit peu le fil de mon propos. Oui, ce qui est vrai, c'est que bien entendu, les socialistes très longtemps ne sont pas définis comme de gauche. Pas non plus comme de droite, hein, bien entendu, mais ils étaient au-delà de la droite et de la gauche. Engels, effectivement, et Marx critiquaient le lumpen prolétariat, qui est quand même assez proche de ce qu'on appelle actuellement oui, et aussi dans un autre registre, hein, enfin les gens qui travaillent clandestinement, c'est-à-dire qui sont par définition du sous-prolétariat, c'est bien évident, qui sont payés aux blagues par un petit billet en fin de journée, après avoir déchargé des cajots de Dieu sait quoi. Bon, et effectivement, il y a cette question de fascination d'une certaine gauche par des canailles, des gens qui jouent d'ailleurs, même surjouent bien souvent, hein, le mauvais garçon, mais le mauvais garçon typé, hein, ethniquement, si je puis dire, d'origine immigrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent ces gens-là sont d'ailleurs en opposition à angle droit avec la culture d'origine des gens d'origine immigrée. Parce que il faut pas croire qu'en Afrique, on a de la complaisance pour un voleur d'autoradio ou même pour un voleur de cajot d'artichaut. Souvent, ce qui se passe, c'est que si vous discutez avec un Africain, il vous expliquera comment ça se passe. En général, on lui fait la peau. Et quand la police arrive, les gens disent, écoutez, moi, j'ai pas vu, je suis arrivé trop tard. Il semble que ce garçon, malencontreusement, chuté. Il a l'air d'ailleurs d'être assez mal en point, mais j'ai pas vu du tout ce qui a pu se passer. C'est suite à une altercation, que sais-je. Enfin, en tout cas, je ne saurais vous en dire plus, monsieur l'agent. Voilà comment ça se passe en Afrique. Il n'y a absolument aucune complaisance envers les mauvais garçons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous inculque culturellement, hein, de cette fascination pour des mauvais garçons comme figure pseudo-archétypale de l'immigré, alors que c'est en fait le contraire de la figure du travailleur immigré. Hein. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond, on ne valorise plus le travailleur immigré, parce que quelque part, le travailleur immigré, c'est quand même un travailleur. Maintenant, la figure que l'on valorise, c'est l'immigré tout court. C'est l'homme aux semelles devant, c'est celui qui n'a pas de racines. C'est-à-dire qu'on en est venu à ça, si vous voulez. On en est venu à ça. C'est celui qui ne vient pas en France pour travailler, prendre sa part dans les luttes. Ce que l'on valorise, c'est en fait celui qui est citoyen du monde, hein, et donc citoyen de nulle part, qui n'a de compte à rendre à personne, qui n'a pas de fidélité à sa terre. C'est ça ce que l'on veut valoriser, c'est-à-dire l'homme devenu totalement, comment dire, échangeable, monnayable, l'homo consumance, hein, qui n'est plus de nulle part, et qui est producteur de partout et de nulle part, et surtout, à partir de là, consommateur de partout et de nulle part, et au nom des droits citoyens, ce sont les droits d'un non-citoyen, précisément, puisque ce sont des droits sans devoir que l'on valorise. On va dire, c'est le droit à la CMU, mais le droit à la CMU, pourquoi pas, mais à condition que ça soit lié à d'autres droits et à des devoirs, bien entendu. Mais non, ce sont des créances. Hein. En fait, on est dans une société de créanciers. Hein. Et ça, en fait, ce sont les miettes du turbo-capitalisme, en fait, parce que finalement, c'est le prix à payer pour le turbo-capitalisme, d'avoir effectivement un certain nombre d'aides sociales qui sont répandues auprès de pauvres bougres déshérités qui viennent en France parce qu'ils savent qu'il y a effectivement des systèmes d'aide sociale qui est sans doute le plus généreux du monde. Mais c'est le prix à payer parce qu'au fond, tout ça, globalement, le grand capital s'y retrouve, bien entendu. Hein, bien entendu, puisque ce sont des gens déracinés qui n'entreront dans aucune lutte sociale, ni nationale, alors que la grande tradition française, c'est quoi? C'est quand même de lier, y compris dans des excès parfois jacobins, mais tant pis, pourquoi pas, l'émancipation nationale et l'émancipation sociale. Or ça, maintenant, c'est terminé. C'est terminé par l'apologie de l'homme au smal devant.
Alors, la gauche populaire, là-dessus, au moins, a eu le courage de poser les questions, en tout cas dans son camp, du côté de la gauche, sur l'immigration. C'est du côté des solutions où ils sont un peu plus vagues. Pour eux, c'est un retour à la République. Mais alors, ils nous parlent de Jean Jaurès, c'est la République telle qu'il, avec le grand R. Mais cette République, est-ce qu'elle a vraiment existé? Et là se pose le problème, est-ce que ça va être la solution, vu qu'elle née de son point de vue, elle reste quand même au niveau de l'Europe. Et là, il y a quand même une contradiction. Est-ce que la République est compatible avec l'Europe de Bruxelles telle qu'elle existe?
Alors, pour reprendre ce que Olivier François indiquait au début, pour eux, effectivement, le progrès, c'était mieux avant. Je crois que cette idée que tu as développée est tout à fait exacte.
D'autant qu'il faut quand même noter que l'idéologie républicaine, même si elle a été dans des temps lointains, on peut penser au hussard noir de la République, qui est à mon avis d'ailleurs un mythe, on pourrait peut-être consacrer une émission à ça.
Oui,
c'est
pas
un mythe
de
la République.
Pas mal de choses à dire.
Profondément, vous parliez de cet homme déraciné tout à fait compatible avec le capitalisme. La République a été la grande déracineuse. A été aussi... Alors, elle a proposé à un moment donné un modèle monumental, avec la blouse grise, ce que aujourd'hui, peut-être, les gens de la gauche populaire ou Régis Debray, qui est, à mon avis, d'ailleurs, plus précis et plus intelligent que ça, a eu peut-être ce modèle monumental à proposer. Mais, au fond, cette République a été déracineuse. Et, à un moment donné, qu'on n'avait qu'un citoyen abstrait de cette République, même si c'était la République française, une et indivisible, même si cette République en se réclamait de miceler d'un certain romantisme républicain qui peut avoir son charme, en effet, mais au bout du compte, quand on l'avait détaché de ses origines bretonnes, corses, basques, etc., enfin, de ces provinces qui existaient encore jusqu'à la guerre de 14, peut-être, même un peu avant, il y avait encore des petits restes, et il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais à partir du moment où on n'avait plus qu'un citoyen français, qui n'était que citoyen de la République française, c'était beaucoup plus facile, selon moi, mais ça c'est un débat, de le transformer en homo consumens.
Parce que d'un côté, ils mènent aussi maintenant aujourd'hui un combat, ils pensent qu'il y a un combat qui est mené entre la gauche populaire d'un côté et une droite identitaire de l'autre. Mais dans les deux cas, en fait, on a une sorte de mythe. La droite identitaire, je ne vois pas trop exactement, nos amis les identitaires vont m'engueuler, mais enfin, ça ne représente pas grand-chose. Il n'y a pas une droite identitaire qui est en train de se mettre en place en France.
Non, d'autant que quand les gens de gauche parlent d'une droite identitaire, je ne suis pas sûr qu'ils fassent allusion, par exemple, au bloc identitaire.
Non, je pense pas
qu'ils pensent tout simplement à des gens comme Thierry, un certain Thierry Mariani, quelque chose comme ça, un autre nommé Lionel Lucas. Enfin, je pense à des gens de la droite populaire, qui ont certes fait quelques propositions sur la législation, sur une réforme de la législation du droit du sol. Mais enfin, c'est pas une droite identitaire au sens j'imagine où les gens de gauche le pensent, c'est tout simplement proposer quelques réformes qui sont parfois de pur bon sens, hein, il faut bien le dire, visant à contrecarrer les excès du droit du sol et les aberrations du droit du sol. Mais c'est vraiment pas une droite identitaire au sens ethniciste du terme. Hein, voilà, mais c'est vrai que d'autant que la culture historique de la gauche est épouvantable, puisque, à dire vrai, le droit du sang a été instauré par la Révolution française. Et le droit du sol était celui de l'Ancien Régime. Donc, on est vraiment là-dessus sur des contresens assez phénoménaux.
Est-ce que, quand il parle d'identitaire, il ne pense pas à cette nouvelle droite, un mauvais jeu de mots, qu'on voit apparaître dans les pays du nord de l'Europe, notamment, ou dans certains populismes, qu'on pourrait appeler d'ailleurs une droite occidentaliste. Il ne faudrait pas l'appeler identitaire.
Au fond, pour eux,
on a l'impression que face à l'immigration, leur identité, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. C'est-à-dire la couleur de peau, le fait de, pour les homosexuels, d'être homosexuels, face aux musulmans qui, en général, n'aiment pas trop ce genre de mœurs, le fait de défendre, à mon avis, ce qui a le pire de l'Occident face à une immigration qui conteste aussi malgré tout. Alors, évidemment, mais en tout cas, un certain nombre d'immigrés, aujourd'hui, dans leurs mœurs, dans leur rapport au monde, ne sont pas des modernes, ou sont des modernes qui se rattachent à une identité, en fait, anti-moderne. Peut-être qu'on pourrait préciser ça.
Ou pré-moderne,
voilà. Mais cette nouvelle droite identitaire, je pense que le terme identitaire, même si j'aime pas trop ce terme-là, est peut-être ambigu, on pourrait davantage l'appeler la droite occidentaliste.
Oui, droite islamophobe.
Ou droite islamophobe, occidentaliste.
Alors, Olivier François, vous avez signé dans ce numéro, alors qui n'est pas dans le dossier, mais enfin qui est aussi très intéressant, un article sur l'historien britannique Edward Thompson, qui lui a étudié l'histoire de la classe ouvrière britannique. J'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes thématiques. Vous allez plus loin, et pour aller plus loin, le vrai procès qu'on pourrait faire à la gauche. À la gauche anglaise, c'est qu'elle a été rapidement aussi du côté de la bourgeoisie et du patron, et une façon de casser cet ancien monde. Et c'est peut-être plus important en Angleterre, parce qu'on a pas toute cette idéologie droite gauche socialiste communiste. C'est vraiment détruire les anciennes coutumes et les traditions de la société britannique.
C'est ça. Alors il faut, pour nos auditeurs, parler un peu de ce livre, la formation de la classe ouvrière britannique de Edward Thompson, qui est un écrivain historien, un grand historien britannique d'origine marxiste. À l'origine, on dirait aujourd'hui plutôt marxien, car ça a toujours été un marxiste hétérodoxe, et justement qui a rompu avec le progressisme d'un certain dogmatisme marxiste, et qui s'est attaché à étudier, puisque on avait jusque dans les années 60, le livre de Thompson est paru en 1963, on avait jusque-là une sorte de vulgate, à la fois chez les marxistes et chez les libéraux, une vulgate progressiste qui voulait nous expliquer qu'au fond, la révolution industrielle, soit pour les plus optimistes, avait été une grande aventure merveilleuse d'inventeurs, et que tout, en fait, ça avait été un mouvement d'émancipation, soit pour les marxistes qui, s'ils reconnaissaient les souffrances des pauvres et de ce qui n'était pas encore la classe ouvrière, mais des humbles, des gens qui ont été mis en usine, par exemple, dès la fin du 18e, et surtout des paysans déracinés qu'on envoyait en usine, etc., qui, malgré tout, en reconnaissant cette douleur populaire, au fond, considéraient que c'était un phénomène quasiment naturel. Ce que rappelle très bien, il faut dire que le livre de Thompson fait 1000 pages. Je recommande vraiment la lecture de ces pages qui se lisent, parce que ça peut paraître 1000 pages effrayant, mais ce livre se lit vraiment comme un roman où il y a des personnages, où il va rechercher aussi les vieilles chansons des petites sectes protestantes liées à certaines classes ouvrières aussi dans le nord de l'Angleterre, aux ouvriers irlandais, le rôle aussi d'un certain catholicisme populaire et de ses mœurs, le rôle aussi de la nostalgie pour l'Angleterre médiévale, qui a beaucoup compté aussi dans certaines guildes, etc. Enfin, tout ce monde qui va être en effet forcé par le capitalisme et par l'État au cours du 19e siècle, et il va les réhabiliter. Et il dit cette phrase en fait préface, il veut réhabiliter, enfin il veut sauver de la condescendance de l'histoire, justement ces gens qui, devant une mutation radicale de leur mode de vue, ont essayé de résister, ont vu d'ailleurs très vite, même confusément, parce qu'ils le faisaient, ils ne savaient pas encore quel allait être l'avenir, mais qui, en défendant par exemple un certain rapport artisanal au travail, voyaient très bien ce qui allait se passer avec une division radicale du travail qui, au fond, ne faisait que créer une société sans qualité. Donc le livre de Thompson a été important parce qu'il a rompu justement à cette vulgate qui n'était pas complètement d'ailleurs en Angleterre, en tout cas oubliée, parce que moi, dans mon article, je parle aussi d'Orwell. Orwell est un peu dans cette ligne-là, enfin de socialiste anti-progressiste.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve la contradiction avec nos amis de la gauche populaire, c'est que ces idées-là, elles viennent des Lumières, et les Lumières ont été très influencées par le monde anglo-saxon, qui a toujours cru que ce progrès allait donner le bonheur au peuple.
Bien sûr, c'est ça qui est d'ailleurs à mon avis important, de voir qu'il y a eu plusieurs rééditions, parce que j'aurais pu parler aussi de Dwight MacDonald, qui est un Américain, enfin qui vient lui aussi du monde anglo-saxon, qui a fréquenté les milieux trotskistes, mais qui était devenu après une sorte aussi de dissident du monde occidental, un peu à la Pasolini ou à la Orwell, et qui justement, lui, vivant dans ce milieu anglo-saxon, étant noyé dans ce progressisme, etc., enfin, a un regard beaucoup plus désabusé sur les illusions du progrès, pour reprendre le titre de Sorel, que, en effet, nos gens de la gauche populaire, ou même de la gauche française en général, qui sont toujours très engrais malgré tout, même si les plus intelligents, au fond, ils ne remontent qu'au Parti communiste français de Thorez, et ils ne vont pas aller chercher dans la tradition syndicaliste révolutionnaire, dans la tradition anarchiste française, qui a eu son heure, enfin, je trouve qu'elle a eu son heure de gloire aussi, il y a des choses très intéressantes, même chez des gens comme Émile Pouget, enfin, il y aurait tout un travail, moi j'appelle les gens de la gauche populaire, à dire, allez camarades, allez regarder même chez Péguy, allez retrouver Sorel, lisez Édouard Berthes, replongez-vous dans Proudhon, etc.
Et nos actuels amis de la revue Rébellion,
hein, qui font un énorme travail là-dessus.
Exactement.
On va refaire une petite pause, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, dans les chroniques de la vieille Europe, on va encore s'écouter un petit morceau de musique corse avant de reprendre notre émission. Voilà, de retour pour cette troisième et dernière partie des Chroniques de la Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Nous recevons l'équipe d'Éléments, le magazine pour la civilisation européenne, son rédacteur en chef, Pascal Essérick, Pierre Le Vigan et Olivier François, pour leur contribution sur ce dossier sur la diabolisation, mais c'est surtout sur ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse gauche populaire. On a fait un peu le tour et on a vu avec Olivier François aussi les origines ces origines qui viennent de cette classe ouvrière britannique, et c'est vrai qu'on invite nos amis de la gauche populaire d'aller un peu plus loin, que c'est pas simplement chevènement, qu'en 82-83, que le changement s'est fait, faut un peu arrêter ce délire. Il y a quelques exemples, et on s'aperçoit que c'est pas facile de passer à la théorie, à la pratique. Aujourd'hui, je lisais sous l'initiative de certains du Parti Socialiste, ils ont bientôt leur congrès, ils ont lancé une pétition pour leur prochain congrès, c'est, je vous cite la contribution, ces zones périurbaines mener le combat culturel. Alors là, la gauche est pourtant au pouvoir, elle a tous les pouvoirs, elle n'a jamais été aussi puissante, et elle n'est pas capable de de proposer un projet de société pour la France. En gros, on est, si je voulais être un peu provocateur, on est dans une sorte de Terra Nova à l'envers, parler à des catégories, qu'elles soient ethniques pour Terra Nova ou socio-professionnelles pour la gauche populaire, c'est un peu pareil. Il n'y a aucune vision de la France, il n'y a aucune vision des régions de l'Europe. On cherche simplement à séduire, on est dans une sorte de bricolage électoral. C'est un peu du Buisson version gauche, cette histoire-là.
Oui, alors...
c'est un peu méchant,
ce qui est, intéressant, enfin intéressant et d'une certaine façon un peu facile avec la gauche, c'est que comme elle s'intéresse aux idées, comme elle ne dévalorisera jamais totalement et définitivement les idées, ce qui ne veut pas dire qu'elle a un jeu forcément honnête avec les idées, mais enfin les idées sont dans le jeu en tout cas. Voilà. Et donc la gauche a toujours finalement fini par théoriser ses tournants. Alors ça a été quand même assez clair avec l'abandon de la rupture avec le capitalisme, hein, qui était la ligne de la gauche depuis le nouveau Parti socialiste créé en 69, le congrès d'Épinay en 71, jusqu'au congrès qui devait être le congrès de Metz en 79, où François Mitterrand s'est allié avec la minorité Serres de Chevènement pour balayer le courant Mauroy-Rocard, hein, qu'on a appelé ensuite la deuxième gauche et qui n'était jamais qu'une nouvelle droite au pire sens du terme, si je puis dire. Voilà. Et donc, en 90, la gauche a théorisé le tournant de 82-83 en disant qu'effectivement, maintenant, il s'agissait d'aménager le système capitaliste, et non, ce qui n'est pas du tout la même chose que rupture avec le système capitaliste. Hein. Je sais pas, quand vous êtes en couple, si vous aménagez votre relation avec votre compagne, c'est pas la même chose que si vous faites votre valise et si vous allez vous installer à Angoulême parce que vous pouvez vraiment plus la voir, cette nénette. Bon, voilà, donc ça c'est... Donc on a aménagé le capitalisme. Hein. J'ai plus question de rompre. Hein. Non, surtout que, bon, finalement, quand on le gère, on se rend compte que c'est assez sympa de gérer le capitalisme quand on est ministre de gauche. C'est presque aussi sympa que quand on est ministre de droite. Hein.
C'est voilà. Rolex comme Julien Drey.
Absolument, ouais. Exactement. Donc voilà. Alors, et il y a eu quand même quelque chose qui est passé un peu inaperçu, mais qui est quand même assez intéressant. C'est en 2002, il s'est passé ce qu'on a su, ce qu'on connaît tous. Lionel Jospin a fait un petit peu plus de 16%, 16,2, quelque chose comme ça, et Jean-Marie Le Pen a fait 16,6 ou 7, bon, qu'importe. Il est arrivé en tête. Et comme le système ne prévoit que deux candidats au second tour des présidentielles, pourquoi deux d'ailleurs, pourquoi pas tous ceux qui seraient au-dessus de 10%, ça me paraîtrait mieux, mais c'est comme ça pour l'instant, eh bien, il a été éliminé. D'où quand même réflexion, Parti Socialiste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, 16%, alors que nous étions au pouvoir de 97 à 2002, il y a quand même effectivement de quoi se poser des questions. Eh bien, ça a donné un processus de une tentation réellement droitiste qui a été portée, c'est tout de même assez amusant, ça renvoie un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, qui a été portée par quelqu'un issu de l'immigration. Oui. Qui ? Malek Bouti. Malek Bouti a dit...
Qui est l'ancien président de SOS Racisme.
Voilà, hein. Il faut réellement prendre en compte les difficultés liées à l'immigration.
C'est très intéressant.
L'excès même de cette immigration, oui, qu'il faut certainement arrêter parce qu'on n'arrive plus à intégrer. Voilà ce que disait Malek Bouti. Mmh. Et la réalité des problèmes d'insécurité, le fait que ces problèmes d'insécurité ne sont pas sans lien avec l'immigration, ce qui ne veut évidemment pas dire que tous les immigrés sont délinquants, mais ce qui veut dire qu'il y a une surreprésentation, malgré tout, des immigrés dans la délinquance. Pourquoi ? Parce que l'immigration est une pathologie, le déracinement est une pathologie. Donc de même que si des immigrés français s'installaient en Turquie, il y aurait à coup sûr une surdélinquance d'immigrés français en Turquie. Eh bien, bien entendu, parce que le déracinement provoque la rupture avec les valeurs traditionnelles, hein, avec la commune décency, eh bien, bien entendu, effectivement, l'immigration, le déracinement, provoque un choc culturel qui se traduit par, statistiquement, plus de délinquance. Et donc, mais ceci étant lié aussi aux mafias internationales, elles-mêmes liées à la haute finance, ce qu'il faut bien savoir aussi. Donc, effectivement, il y a eu cette tentation de Malek Bouti vers 2002-2003. Il y a eu à l'époque des articles d'ailleurs du quotidien Le Figaro là-dessus qui pointaient les aspects de ce rapport qui incontestablement rejoignait ce que les éléments les plus perspicaces d'une certaine droite avaient pu aussi avancer comme analyse de la situation. Mais bien entendu, ça a été abandonné. Ça a été abandonné parce que ce n'était pas conforme avec la dictature idéologique Lili, libérale-libertaire ou boboisante, et que les pesanteurs culturelles sont absolument énormes, parce que à gauche, dans la bataille grabchisme culturel, hein, dans la bataille qui a lieu, ce sont pas les nationaux républicains chevènementistes qui pourraient être zémouriens d'ailleurs qui ont gagné, ce sont bien entendu les gens de la tendance libérale libertaire DSKanesque.
Libéral, d'ailleurs, on pourrait les appeler comme ça aussi, parce que je crois que DSK n'est pas très libertaire quand ils voient les, ou ces gens-là ne sont pas très libertaires quand ils ont des flics défendre des G8 ou qu'ils ont besoin d'être protégés. Donc, faut les appeler libéraux, tout simplement.
Est-ce qu'en fait, le drame, le gouvernement de François Hollande, comme je le disais tout à l'heure, n'a jamais eu autant de pouvoir? Même François Mitterrand n'a jamais eu autant de pouvoir sur le plan politique au niveau de la France. Pourtant, je lisais, et pour une fois, Jean-François Kahn disait quelque chose d'intéressant, il disait la France reste à droite et la gauche a perdu justement la culture. Maintenant la culture est à droite, les gens ne se sentent plus représentés, et c'est vrai que dans un des entretiens que vous aviez fait avec Gaël Brussier, il le dit bien, le retour c'est la République et reprendre le gramscisme, c'est-à-dire reprendre le pouvoir culturel qu'ils ont perdu. Est-ce que c'est pas ça en fait leur vrai drame, c'est-à-dire perdre le pouvoir politique, ça les dérange pas trop, ils ont l'habitude d'être... Mais de perdre le pouvoir culturel, ça, c'est une véritable catastrophe.
En tout cas, c'est la raison pour laquelle nous, dans le dossier d'éléments, on a voulu mettre la littérature comme un combat politique. C'est-à-dire, on a voulu mettre à l'honneur, et c'était l'entretien entre Michel Marmin et Rémi Soulier, mettre à l'honneur un certain nombre d'écrivains, comme Richard Millet, comme Renaud Camus. Moi, j'ai découvert, enfin, je le dis, hein, j'ai découvert un auteur que je connaissais pas mal, Renaud Camus. Là, ces trois derniers livres, c'est
logique des civilisations.
Son triptyque, c'est absolument...
Parce que ce qui est intéressant...
On voit bien que là, il y a tout un terreau qui échappe... qui partant de la gauche, c'est des créatures qui leur échappent.
Parce que sur le plan, vous parlez de littérature et je pense que c'est important. Il y a encore, je pense, 20 ou 30 ans, la littérature de droite, on parlait toujours de ces hussards.
Moi
personnellement, m'a jamais intéressé. Aujourd'hui, on voit que
l'inévitable Paul Morand.
Je défends Paul Morand contre les hussards, mais
je préfère Paul Morand. Une grande sympathie pour les Vichy.
Mais on voit bien qu'aujourd'hui, que ça soit des jeunes auteurs comme Olivier Molin qui commencent à avoir du succès, ou même des gens comme Houellebecq, on peut pas dire que ces gens-là sont très proches de la gauche. Et en tout cas, ils ont eu certaines provocations. Ne parlons pas de Richard Millet avec ses fameuses déclarations à la télévision, qui a peu de chances d'avoir le sort de Renaud Camus, vu qu'il a un poste important chez Gallimard. Et ça fait partie de ces grands auteurs.
Je me demandais si la différence entre Richard Millet et Renaud Camus, qui ont pourtant des proximités, ne le cachent pas, c'est que ce n'est pas que malgré tout, Richard Millet, en insistant sur l'islamophobie, sur son islamophobie, en un sens se protège. Parce que dans la logique du système, un islamophobe ne peut pas être quelqu'un de complètement mauvais. Alors que quelqu'un qui considère que le problème prioritaire est l'immigration se positionne hors système.
Moi, je vois pas trop la différence entre Renaud Camus et Richard Millet, qui sont quand même sur la question de cas de l'islamophobie, sont exactement sur la même ligne. Autant revendiquer les
autres. Moi, je pense le remplacement.
Moi, je pense que la différence, c'est aussi le fait que Renaud Camus est appelé à s'est engagé un petit peu.
Oui,
c'est appelé à voter Marine Le Pen, ce qui n'est jamais très.
C'est un peu la phrase tabou pour un intellectuel.
C'est un peu la phrase tabou pour un intellectuel, parce que je pense que c'est non seulement parce que Marine Le Pen défend certaines idées, mais parce que ça fait beauf et que c'est pas bien porté dans les salons parisiens, alors que Richard Millet, qui est à mon avis un grand écrivain aussi, mais quelqu'un qui est beaucoup plus dans sa tour d'ivoire.
Et les deux ont du talent. Les deux ont incontestablement du talent, mais encore une fois, il me semble que, je crois qu'il n'est pas contestable malgré tout, que Richard Millet insiste quand même plus, y compris pour des raisons de vécu personnel, qui sur lesquelles je ne porte pas de jugement. Enfin, il insiste plus sur une hostilité profonde à l'islam, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'expliquer que le soufisme, etc. Mais enfin, on sait très bien que le soufisme, ça pèse quand même pas très lourd dans l'islam réellement existant. Oui. Hein, c'est comme le socialisme réel et le socialisme.
Il y a beaucoup d'intellectuels européens qui s'intéressent au soufisme. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de soufisme.
Absolument, voilà, mais tout à fait.
Non, mais dans le dossier, on a parlé de Richard Millet et de Renaud Camus. On peut citer aussi Philippe Le Guillou. On peut citer aussi Olivier Molin. On peut citer Jean-Benoît Puech, voilà. Je reprends le terme de terreau, qui me semble tout à fait plus que prometteur. Hein. Philippe Barthelet aussi, qui est là, qui peut aussi, et c'est ce qu'indique Michel Marmin, en France, la littérature peut aussi apporter un questionnement politique. La relation entre littérature et politique.
Ce qui est intéressant, je pense que Pascal et Cyril, vous en conviendrez, je pense, c'est que tous ces gens-là, Millet et Camus, écrivent en souffrant. Hein, ça se sent quand même. Hein, on peut ne pas partager leur passion ou leur formulation. Enfin, il me paraît quand même difficile de ne pas être en empathie face à ce sentiment de souffrance lié à la vision d'un remplacement de population, hein, un transvasement d'une population remplacée par une autre, une population de souche qui est en quelque sorte marginalisé, hein, progressivement, par une population venue d'ailleurs, de différents confins, très variée d'ailleurs, donc sans qu'il y ait une sorte de possibilité de définir les arrivants par un lien unique, parce que si je veux dire en Allemagne, c'est essentiellement par exemple des Turcs, donc c'est quand même assez simple, il y a une sorte de face-à-face, les Allemands, les Turcs. Mais en France, ce sont des gens d'origine tellement variée que eux-mêmes, bien entendu, ne se comprennent pas entre eux. Un Malien n'a pas beaucoup d'atouts innés, pas plus qu'un Français de souche, pour comprendre un Pakistanais, pour le comprendre en tout cas facilement. Enfin, il y a un gap culturel, il y a un trou culturel.
Olivier François.
Ce qui réunit aussi ces auteurs, outre la question de l'immigration et du grand remplacement, pour reprendre les termes de Renaud Camus, c'est aussi une sensibilité à un certain passé. C'est des gens qui n'ont pas du tout une vision progressiste de l'histoire, qui sont attachés aussi à des choses qui peuvent durer et qui sont aussi évidemment effrayés ou affligés par la destruction d'un certain mode de vie, d'une certaine qualité de vie aussi. Enfin, j'aime pas le terme qualité de vie parce que ça fait penser au ministère de Giscard.
Michel
et aussi, je pense notamment à Barthelet, à Molin, qui sont pourtant des gens très très différents. Puisque d'un côté, on a un auteur assez précieux, pas du tout dans le sens péjoratif, qui est Barthelet et presque un peu jungerien. Et de l'autre, on a quelqu'un qui est plus dans la tradition rabelaisienne, très française, et gripparienne aussi, c'est très juste, de Olivier Molin. Mais ces deux auteurs, Barthelet comme Molin, sont des désabusés du progrès et sont effrayés par la perte de l'authenticité, même par la perte du goût des choses. Je veux dire, moi, je pense que c'est Guy Debord, à la fin de sa vie, qui remarquait la fin, par exemple, que la bière, que le vin avait changé de goût à cause du fait que du trafic industriel. Et ces gens-là se se reconnaîtrait tout à fait là-dessus. Enfin, il y a une même hantise de la d'une sorte de dégénérescence de la société, du goût du monde,
goût des choses et goût des gens,
goût des choses et goût des gens.
Raison, voilà. Pascal Essérique.
Oui, il y a une phrase que de Michel Marmain que j'aime beaucoup. Tout grand roman français contemporain doit passer nécessairement par la forêt de Brocéliande.
Ça rejoint un petit peu. C'est très joli. Ouais.
Donc, vous qui, à Élément, ont mené depuis maintenant plus de 30 ans, 40 ans, non, le combat pour les idées et pour une culture européenne, est-ce que c'est pas, vous n'avez pas commencé à gagner là? Parce que, effectivement, si la littérature commence à changer, les mentalités arrivent à changer. Et est-ce que c'est pas le danger de cette gauche qui, aujourd'hui, n'a strictement plus rien à dire au peuple?
Est-ce que vous vous souvenez de... C'est une phrase de Baudrillard qui se demandait pourquoi, se demandait pourquoi tout ce qui est à gauche est devenu moraliste, est devenu conformiste, est devenu officiel, et finalement tout ce qui était à droite devenait à contrario, était dans de l'ordre de la contestation, souvent du talent, souvent de l'ironie, souvent de voilà, c'est
Oui.
Pierre Le Vigan.
Ce qui me paraît important, c'est effectivement, encore une fois, de dépasser les clivages politiciens oui. Droite-gauche. Hein, moi, personnellement, je me sens à la fois de droite et de gauche, fondamentalement. C'est qui paraît intéressant, malgré tout, c'est que la droite a toujours été assez douée pour le ricanement. Bon, oui. Et son talent littéraire avec des gens comme Jacques Perret n'a jamais été contestable, y compris d'ailleurs Paul Morand qui a un réel talent. Mais si politiquement je n'aime guère ce monsieur. Mais maintenant la droite commence à être quand même, enfin une certaine droite, qui ne se définit d'ailleurs pas spécialement comme droite, mais qui est classée à droite, commence à porter des jugements quand même assez profondément pertinents sur un certain nombre de choses. Quand on écoute Éric Zemmour, sa critique de l'immigration, c'est très loin d'être une critique racialiste. Pas du tout racialiste, Éric Zemmour.
Oui, on est pas dans le réactionnaire...
Républicain, il est pour... Il regrette l'époque de l'assimilation et même du métissage quand les femmes... quand les maghrébins se... marié avec une Française et que donc les gamins avaient dans leur vision familiale le père maghrébin mais la mère française et que la mère étant souvent plus présente que le père, et ben l'assimilation se faisait. Moi j'ai eu comme camarade d'école un frère de Richard Berry qui s'appelait Ben Guigui. Un jour la maîtresse nous a dit eh bien vous savez votre camarade Ben Guigui maintenant s'appelle Berry. Et très bien, Berry, j'ai pensé, ah oui, comme le Berry, c'est une région vers Bourges, je crois. Bon, mais il y avait, au demeurant, aucune espèce de problème de racisme envers ce garçon, Ben Guigui. Mais en même temps, c'était touchant de voir ce Ben Guigui vouloir se faire appeler Berry, signe de « je suis chez vous et je prends votre nom aussi ». C'est comme quand un Africain s'appelle Ngoma et se fait appeler Gomard. Ma foi, personnellement, je trouve ça plutôt touchant. Bien entendu, il n'y a pas d'injonction. S'il continue de s'appeler Ngoma, pourquoi pas. Mais quelque part, effectivement, on ne peut pas ne pas voir ça comme un pas. Comme un pas vers la communauté nationale française. Ça n'a aucun rapport avec la rupture des relations avec le pays d'origine, bien entendu. L'assimilation, c'est pas forcément se déraciner soi-même, c'est simplement faire un pas vers un pays dans lequel on a décidé non seulement de travailler, mais de mourir et de voir vivre et vieillir ses propres enfants. Donc, à partir de là, il faut quand même effectivement avoir une certaine cohérence.
Je suis d'accord,
Olivier François.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Pierre Le Vigan. Les exemples que vous nous avez donnés sont très justes et assez touchants d'ailleurs. Quand il n'y avait pas encore d'immigration de masse, parce que cette intégration et cette assimilation étaient possibles. Ensuite, moi, je suis toujours étonné sur cette question de l'assimilation. On a à la fois une légende noire ou une légende dorée de l'assimilation. Chez certaines personnes identitaires, on a la légende noire où au fond ce n'est pas possible. De toute façon, les identités sont des espèces de cloîtres, des fermetures étanches. Et de l'autre côté de la gauche, à mon avis, il y a aussi une vision très dorée, une légende dorée de l'assimilation et de l'assimilationnisme républicain, au fond, dont on ne rappelle pas aussi, en tout cas pour ce qui est, je suis désolé de revenir là-dessus, parce qu'on a écouté des chansons corses. Peut-être que quand la gauche populaire a au pouvoir, on n'aura plus du tout le droit d'écouter des chansons corses, que les Corses seront soumises aux colonnes infernales. Mais il y a aussi cette légende noire de l'assimilation, enfin de l'intégration et de l'assimilationnisme républicain, qu'on a vu à la fois pour nos régions, demander aux Bretons, et aussi pour l'Algérie, qui a été un échec, où on allait jusqu'à dévoiler les femmes sur la Casbah d'Alger, dans une politique jacobine qui était absurde, d'ailleurs, parce qu'on montait contre nous des populations, les scandalisées, plutôt que d'avoir une politique à la Lyauté, plus intelligente, faite à la fois, en effet, d'intégration, d'assimilation, et aussi d'une part de, pas de ghettoisation, mais de séparation.
C'est intéressant ce que vous dites sur la légende dorée, la légende noire, parce que quelqu'un comme Éric Zemmour, qui est le républicain, cette icône de la République, lui raconte réellement que oui, c'est violent, la République, c'est violent quand on intègre, etc. Et quand il donne les exemples de cette République, vous avez en face des gens de gauche qui disent quelle horreur, alors qu'ils se disent eux-mêmes républicains, mais ils sont dans la légende dorée. Lui, il dit simplement...
Et que ce soit une violence, moi je suis à la limite, comme la violence d'un accouchement, ça peut être une belle, violence, un effort, je ne suis pas contre l'effort, mais après c'est aussi de rappeler que crier, sauter comme des cabris en disant assimilation ne résoudra pas le problème, à mon avis, et qu'il faut réfléchir aussi sur à des modes peut-être d'intégration peut-être alternatifs.
Alors vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, il nous reste quelques minutes, on va vite conclure, on va juste sur... vous demandez sur cette gauche populaire, on va finir. J'ai cru savoir que, par exemple, le géographe Christophe Guilly n'est plus vraiment dans le collectif gauche populaire, que Gaël Brustier vient de travailler, qui travaillait avec Montebourg, maintenant travaillerait pour Julien Drey. Alors ça, c'est le sacré paradoxe. Moi, j'ai lu ça. Il aurait
on le plaint.
Travaillé. Bah oui, c'est-à-dire que alors là, c'est Julien Drey qui est quand même l'inventeur de cette gauche morale et bobo des années 80. Je plains. Enfin bon, c'est leur choix au Parti Socialiste. À votre avis, cette gauche populaire qu'on a vue à peu près depuis un an, a-t-elle un avenir ou c'est un effet de mode dans le monde des idées? Est-ce que vous pensez qu'elle peut arriver un peu plus loin que ce qu'elle a commencé?
La question qui se pose, c'est est-ce que le peuple français veut réellement entendre des vérités? Je crois pas qu'il y ait une vérité unique, mais il y a quand même un certain nombre de vérités qui peuvent venir de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou les deux à la fois. Est-ce qu'il veut encore les entendre ou est-ce qu'il préfère rester dans l'anesthésie qui est distillée par les médias? Très clairement, on peut penser que actuellement le peuple français a fait le choix de l'anesthésie. La situation est dramatique. Il a préféré des sociolibéraux de gauche à des libéraux moins sociaux de centre droit. Mais enfin, fondamentalement, c'est quand même le peuple français n'a pas voulu prendre les problèmes à bras le corps. Hein, ça, c'est très clair. S'il avait voulu prendre les problèmes à bras le corps, Marine Le Pen aurait fait 38% ou Mélenchon aurait fait 42%. Or, il a fait Mélenchon 10,5. Bon, c'est pas négligeable. Enfin, ça reste très minoritaire. Marine Le Pen a fait 17,9. Donc, fondamentalement, les gens ont voté pour le statu quo. Voilà. Simplement, l'histoire, elle, ne fera peut-être pas, et sans doute pas, le choix du statu quo. Hein, parce qu'il ne suffit pas de voter pour des gens conservateurs. Et à un moment donné, l'histoire n'est pas conservatrice. L'histoire est révolutionnaire. Et là, je pense que c'est ce qui risque de se passer, aussi bien au plan monétaire que dans d'autres domaines. Il peut y avoir des secousses, des séismes énormes. Et dans ces périodes-là, ce sont pas les conservateurs qui jouent un rôle historique, ce sont plutôt les marginaux, les rebelles, les gens comme le général de Gaulle, en 1940.
Olivier François.
Moi, j'ai l'impression que la gauche populaire, son drame, ça va être sa proximité avec le pouvoir, donc avec le gouvernement, la présidence Hollande. Donc, il faudra que les gens de la gauche populaire soient les plus courageux, aillent à l'aventure, et essayent de chercher, de continuer à réfléchir, pourquoi pas, d'ailleurs, dans la rue, et d'un autre côté, vous parliez de ce pauvre Gaël Brussier qui va travailler avec Julien Dresse, qui est vraiment terrible. Peut-être
donc,
certains.
Je sais pas, il a peut-être pas un contrat, mais enfin, là, il vient de sortir.
Après certains,
une pièce de théâtre avec Julien
Dresse. Peut-être malheureusement que certaines personnes de la gauche populaire vont devoir payer leur proximité, avec le pouvoir et vont rentrer dans des cabinets ministériels et se perdre et acheter des appartements dans quelques années.
Alors, ça va être terrible.
Pascal et Céric, c'est vous qui allez avoir la conclusion.
J'aime beaucoup la conclusion de Pierre Le Vigan, l'histoire est révolutionnaire. C'est la mienne.
Alors, vous avez quand même, mon cher Pascal, quelques minutes pour nous présenter rapidement ce qu'il y a aussi dans ce dossier, ce numéro 144 de juillet-septembre du Élément.
Eh bien, il y a...
Du Élément, oui.
À l'occasion de la parution de Mémoire vive, qui est le livre de mémoire d'Alain de Benoît, nous avons demandé un certain nombre de personnes de témoigner. J'ai en face de moi Olivier François qui a
fait le plus grand article sur Alain de Benoît, quand même.
Enfin, sur ce livre de mémoire.
Ouais.
Sur la rencontre plutôt. Avec
voilà.
Sur Benoît, la rencontre intellectuelle.
Sur ta rencontre et qui me semble être un article tout à fait stimulant.
Autre chose.
Oui.
Oui, je vous presse un peu, mais il reste quelques minutes.
L'article de François Dorcival aussi, qui est étonnant d'ailleurs dans
cette
signature que nos auditeurs connaissent, mais
voilà, oui.
Qui est un peu inattendu.
Alors retrouver, il n'a jamais signé dans Élément. Pierre Vigan, non. Il n'a jamais signé dans Élément.
François Dorcival, jamais. Il défend des positions quand même assez sensiblement différentes au plan, je dirais, de la politique internationale de celle de l'équipe d'Éléments.
J'ai cru comprendre que sur l'Amérique, il y avait eu un léger un moment, à une époque, ça n'avait pas bien marché entre l'équipe d'Éléments et...
mais en même temps, il évoque... ses souvenirs de jeunesse avec Alain de Benoît à l'époque.
Il y a d'autres témoignages.
Fabrice Laroche. Moi j'aimerais bien
rapidement, il nous reste 2 minutes pour nous donner le reste.
Alors oui, le reste du sommaire. Donc il y a aussi cet entretien avec Maurice Curie, qui développe Maurice Curie, qui est un des auteurs du livre noir du capitalisme d'ailleurs,
communiste, hein,
exactement, communiste, président du syndicat national des auteurs et des compositeurs, la SNAC, et qui développe dans cet entretien le concept de culture nationale. Ça nous a semblé être à la fois à propos il y a bien sûr les rubriques habituelles sur le cinéma avec Ludovic Maubreuil, mais aussi une rubrique qui devient de plus en plus un rendez-vous tout à fait attendu, c'est la rubrique de Xavier Aimant.
C'est pour ceux qui aiment bien.
Voilà, c'est interdit au moins de 18 ans.
Voilà, c'est facilement interdit au moins de 18 ans.
Moi, j'aimerais bien que, si on a quelques petites secondes, que Olivier François, c'est un petit peu difficile parce que. Dans son article, il raconte sa rencontre avec Alain de Benoît. Et voilà comment, en quelques minutes...
Oui, c'est compliqué parce que je ne vais pas refaire l'article.
Non,
on n'a pas trop tenté. Non, ma rencontre, elle était simple. Non, elle n'était pas assez compliquée au début, puisque je viens plutôt des milieux de l'Action française, du maurrassisme et de la vieille maison. Donc au début, en plus, dans ces milieux-là, Alain de Benoît était parfois considéré comme une sorte de gourou étrange. C'était la nouvelle droite néo-païenne, vous voyez.
Porno satanique,
au moins des cérémonies.
Exactement. Et après, ça a été une lecture à partir au début des années 2000, notamment. Je me souviens de la lecture de Critique théorique, et je renvoie les auditeurs à l'article.
Très bel article.
Merci à vous. Et bien sûr, ce numéro est en kiosque actuellement. Vous pouvez pas le louper. Les tout rouges, il y a une énorme. Enfin, je vous explique pas. Vous le trouverez en kiosque. C'est le numéro 144 d'Éléments. Merci à tous, Pascal et Céric, Pierre Le Vigan, Olivier François. Soit Fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. On se retrouvera dans une émission enregistrée dans 4 semaines. Je vous souhaite d'ici là de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et puis, n'oubliez pas d'écouter notre émission jeudi soir en rediffusion et sur le site vieilleurope.fr. Bonne soirée sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.